Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Radio Syllabe. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire du lundi soir. Si tout s'était passé comme prévu, vous n'auriez pas entendu cette introduction, et vous auriez directement été plongé dans la table ronde que nous avions eu le plaisir d'animer à la MJC du Grand Cordel ce samedi 28 mars. Mais voilà, tout ne se passe pas toujours comme prévu, et nous avons perdu les 20 premières minutes de ce temps d'échange passionnant. Alors on va essayer de réparer ça à la façon dont on reprise les chaussettes. Quand on a un trou à repriser, voyez-vous, on commence par consolider les bords. Nous étions donc à la MJC du Grand Cordel qui, du 25 au 28 mars, organisait le festival Écrire et Dire, un festival qui met en lumière celles et ceux qui font exister des mots comme des gestes de résistance, de lien et de réinvention. Atelier d'écriture avec Juliette Rousseau, Amélie Durand et Laura Tirandaz, lecture performée à chaque soirée en compagnie de Nathalie Burel, Selima Atala-Chataoui, Hugo Titem de Lavaux, Sarah Mishkin, Chloé Delhomme, Marc Namour, Elisabeth Lombé. Et le samedi, en matinée comme en après-midi, des tables rondes, accessibles en full gratuité. Le matin, Sylvain Bertrand des éditions du Commun et Simon Pinel des éditions Argyle et de la librairie Astrolabe étaient là pour raconter les prises de risques et les écritures engagées de leur maison d'édition indépendante. Et l'après-midi, bah nous on était là, avec Isaac, Léa et Titouan, pour participer à la table ronde « Jeunesse et écriture, fabriquer, dire, diffuser ». Titouan est l'actuel président de l'association LAGRAF, journal étudiant de l'Université Rennes 2, publication papier mensuelle du campus. Léa, elle, participait à LAGRAF l'an dernier, avant de s'engager en tant que service civique sur la coordination du trombone, le supplément mensuel dédié à la création étudiante. Isaac, enfin, a toujours eu affaire avec l'écriture. C'est en tant que membre de la promotion 2024-2025 de la formation Chemin de Fer qu'il vient nous parler de son expérience dans la revue Bancal. Mais il nous racontera aussi son vécu de poète prochainement publié aux éditions Les Bonnes Feuilles. D'ailleurs, une fois ce tour de table achevé, il nous avait lu un de ses écrits. Et là, bah, il nous manque un peu trop de tissu à notre chaussette pour la recoudre comme ça, alors on va ajouter un petit patch pour combler la matière manquante. On a donc trouvé une autre voie pour vous faire parvenir le poème « Le départ des étourneaux » d'Isaac Quiñones.
Ces derniers temps, de bouillants rêves avortés rêvent à eux-mêmes. Rêves de draps souillés par le passage du temps, par la douceur de l'âge. Les désirs mi-bridés, minés de larmes de crocodile, derrière les fenêtres baroques des hôtels soi-disant abandonnés, se tournent de nouveau vers l'automne, vacant de toute mélodie lancinante. Ce n'est pas encore novembre, mais ce sont les trompettes inatteignables qui sonnent son arrivée prochaine. Prochainement, dans le brouillard de l'aube sur les champs de poèmes, son long manteau noir recelant de poison à faire fondre sous la langue. Il jaunira les lumières du soir et fera vibrer le jour sur un air mélancolique. Son long manteau noir sur les champs de poèmes, son long chapeau noir abreuvant les semis de honte. La pluie éveille sous terre des colonies venant humer l'humidité. Lourde de retranchements, l'homme depuis son arbre cherche, je crois, un peu de sauvagerie, tend la main vers les secrets de la chair. S'écorche aux ronces du savoir, et novembre étend son long manteau noir sur les champs de poèmes. Elles ne cherchent pas le divin, elles veulent l'absurde, la mer au pied du mur, le sexe entre deux eaux.
La discussion s'est donc lancée, en s'intéressant d'abord aux enjeux de création, et ce que Léa, Titouan et Isaac avaient pu expérimenter en rejoignant les espaces de la revue Bancal pour l'un, et de l'agrafe et du trombone pour les autres. Léa et Titouan ont notamment pu nous parler de cette expérience double qu'elles ont eue, d'abord en tant que rédactrice et contributrice, et puis de faiseurs et faiseuses, et elles sont devenues chefs d'orchestre, recevant des contributions, relisant les textes des autres, conseillant par ici, rassurant par là, garantissant une rigueur journalistique et la cohérence d'une ligne éditoriale. Isaac, quant à lui, nous parlait de l'effervescence du collectif au sein de sa promotion, les articles écrits à deux, quatre, six mains, les rencontres décisives, comme celle avec sa formatrice, l'aidant à décrocher un stage d'un mois à Ici Rennes. J'en oublie sûrement. Et il y a des choses qui resteront dans cet ici et maintenant qu'aucune carte mémoire n'a réussi à capturer. Mais on va reprendre là. Au moment où Isaac nous parlait de son choix d'écrire sur les personnes transgenres. Un choix d'article proche de son vécu, mais pour lequel il a entrepris une démarche de distanciation et de décentrage, allant pour cela à la rencontre de différentes personnes et de différents points de vue. Et plus globalement, il nous parlait de l'importance de donner de la place aux personnes marginalisées dans son travail.
Sur le sujet justement de donner la voix, donner la parole à des communautés marginalisées, je trouve que c'est justement très important que ça passe par le format papier, par le format écrit, parce qu'il y a plus de place en fait simplement pour s'exprimer, et à travers la manière de dire, à travers la forme, et justement la personne à qui on donne la parole, il y a moyen, je pense, d'atteindre beaucoup plus profondément les gens qui vont lire, quoi.
Bah pour cette question de la politique, c'est vrai que le trombone, c'est forcément un espace politique parce qu'on a une revue très libre et tout, et papier surtout. Mais je pense que c'est plutôt une sorte de bulle par rapport à la graphe où ça reste malgré tout politique, même si évidemment on essaie de se diversifier, etc., dans les sujets. Là, c'est vraiment du récit personnel. Ou des illustrations à travers lesquelles on peut se reconnaître, mais sans que ce soit intégré à un certain flux ou à une information en particulier. Là, c'est juste on interprète comme on veut. Et aussi, par rapport aux personnes qui participent, c'est vrai que nous, c'est quelque chose que je regrette un peu cette année de ne pas avoir plus développé, mais la rencontre avec les artistes, etc., c'est quelque chose que j'aimerais un peu plus... où j'aimerais plus m'engager, mais c'est vrai qu'on reçoit des contributions généralement sur la boîte mail ou sur le Padlet, donc ça reste numérique, et en fait on voit pas du tout la personne qui nous envoie, donc il n'y a pas du tout de filtre vis-à-vis de qui nous envoie quoi, etc. Donc c'est vrai que finalement on s'en fiche un petit peu tant que ça parle aux gens et tant que ça nous parle et que ça dialogue avec d'autres choses qui peuvent être publiées. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce format, c'est parce que c'est très libre et que... Ça fait fi un peu de tout ce qui se passe autour, et je sais que par exemple quand on fait les distributions ou les stands, les gens viennent et prennent soit la graphe soit le trombone et disent s'ils prennent pas la graphe, par exemple, ils vont dire ah ouais c'est chouette le trombone, ça je sais que je vais lire parce que c'est des choses qui les touchent plus, et l'inverse marche aussi avec la graphe. Donc je pense que les deux formats se répondent bien et qu'ils peuvent parler d'un mois sur l'autre à des personnes différentes, mais c'est en fonction des envies et des besoins aussi. Donc voilà.
J'ai à parler des artistes aussi, et je trouve que ça marche aussi avec les gens qui écrivent dans le journal. Donc on parlait pas mal de ses lecteurs, mais aussi je pense qu'il y a des... Enfin, ça engage aussi les rédacteurs à creuser même le sujet. Hein. J'ai souvent vu que les sujets déviaient en fonction de comment ils les creusaient. Donc, je trouve ça intéressant de le mentionner aussi. Et puis, pour l'engagement politique, bah, forcément, il y a, même dans les recommandations qu'on fait souvent dans la graphe, même si on recommande des films, ce sera des choix politiques aussi. Bah, là, en mars, il y avait Maya, je crois, qui... proposer un film qui sortait sur l'abandon. Je trouve que même si ça reste juste une recommandation filmique, le choix du film en lui-même est déjà un choix politique, quoi.
Et la question que je me posais, c'est que en dehors des médias créés pour vous, par vous, est-ce que vous trouvez dans le paysage médiatique français aujourd'hui, est-ce que vous avez une autre place que celui de Steve Audimat, quoi? Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous projetez pour devenir rédacteur, rédactrice et avoir un statut en tant que jeune? Parce que enfin, j'estime avoir quitté votre catégorie, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est. Je me demandais comment vous viviez en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui vous représentent dans cet espace médiatique-là contemporain?
Je me permets. En fait, du coup, c'est vrai que moi, je ne me vois pas trop dans le monde journalistique. C'est pas du tout une ambition que j'ai, mais plus dans le monde de l'édition. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose au quotidien, parce qu'on a des cours sur l'économie du livre, sur un peu la manière dont fonctionne tout ce marché, et notamment les grands groupes qui s'accaparent un peu, voire beaucoup, tous les médias de moins en moins indépendants, du coup. Donc moi, ça me questionne beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout envie de travailler pour des personnes telles que Bolloré, pour ne citer que lui. Du coup, oui, c'est vrai que j'ai peur de ne pas trouver ma place ou de ne pas trouver de sens à ce que je fais, parce que l'édition, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Après, je pense qu'il y aura toujours des structures un peu alternatives, entre guillemets, pour
esquiver cette voie-là, mais encore une fois, la question de la rémunération des Roxa, ça se pose beaucoup. Donc, pour la partie édition, en tout cas, la question se pose, et la question continuera de se poser dans les prochaines années, je pense.
Pour rebondir sur Léa, je trouve qu'effectivement, on a encore en France un paysage médiatique assez transparent. Donc on voit avec cette transparence qu'il est malheureusement détenu par des milliardaires. Hein, même une de mes aspirations, le monde que je dis souvent, c'est détenu par Xavier Niel, qui est toujours du même moule, hein, malgré les apparences. Mais j'ai de l'espoir. J'ai l'impression que les plus jeunes générations aussi se détachent un peu du format journalistique, que ce soit en papier ou en version numérique. Avec Luba par exemple, qui anime en parallèle des lives sur Twitch. Donc, y a plein d'autres formats qui émergent pour faire des alternatives au monopole, à l'oligopole en tout cas des sources journalistiques actuelles. Quoi. Donc j'ai envie d'y croire. Ouais.
Je pense que c'est très important justement quand on est jeune de ne pas sombrer dans le pessimisme directement et de se rendre compte qu'il y a effectivement énormément d'alternatives. De se rendre compte justement qu'il y a énormément d'alternatives à la presse écrite, que ce soit effectivement numérique ou en format papier. Et oui, c'est vraiment capital de garder espoir en ça parce que vu qu'on est les jeunes, vu qu'on est la génération qui arrive, sinon on perd espoir, qu'est-ce qu'on laisse ? Possibilité de se faire entendre. Peut-être justement par moins grand public, mais en tout cas d'avoir le mérite d'exister et peut-être de faire entendre une voix au milieu du brouhaha médiatique ambiant. Après oui, pour la rémunération, ça n'a pas l'air super non plus, quoi, on ne va pas se mentir.
Ouais. Et puis même les solutions alternatives sont quand même énormément dépendantes des plateformes, des réseaux sociaux, tout ça. Meta ou Instagram ou Twitch. Donc je pense qu'on peut se rejoindre sur le fait que le relationnel de personne à personne, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup l'échelle locale. Quoi. Se déplacer, aller rencontrer les gens en direct, c'est vraiment ce qui fait toute la différence avec que partager des choses en ligne. Quoi.
Et une question qui va aller un petit peu ailleurs. Comment vous faites pour... J'ai peut-être trop de projections sur vous, mais comme vous êtes engagé, possiblement peut y avoir une tangente vers la militance. Est-ce que du coup c'est quelque chose de compliqué ou d'intéressant à travailler quand on développe des futurs journalistiques ?
Ça rejoint un petit peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de mettre une certaine distance entre soi-même et le sujet, surtout quand le sujet est très proche de l'auteur ou l'autrice. Je pense que c'est ce qu'on disait aussi, c'est que le simple choix d'un sujet est politique. Donc, moi, je suis militant dans ma vie de tous les jours et j'espère que mes productions écrites, qu'elles soient politiques ou journalistiques, puissent justement un petit peu retranscrire un idéal, en tout cas une certaine vision du monde. Mais justement, quand je travaillais à l'ICIREN, du coup, pendant mon stage en septembre, j'avais été envoyé en reportage sur un café friperie qui s'appelle Sukawa. Et moi, je me disais, justement, après avoir travaillé avec Bancal sur le thème des bobos, je me disais, ah oui, ok, 5€ l'espresso, et on va vendre des vêtements créateurs à 40€ pièce, donc friperie, voilà, on sait ce que ça veut dire. Et j'ai été très surpris, en fait, de me rendre compte que c'était effectivement avant tout une recyclerie, où tout était effectivement à prix très bas, et où le café d'ailleurs était très bon et a pris tout à fait correct aussi.
Et puis pour info, se donner en tant que friperie, parce que ressourcerie, il y a un label, il faut payer. Voilà, c'est aussi ça les stratégies matérielles.
Voilà. Et du coup, j'avais écrit un petit article qui avait été publié dans l'édition papier du mois d'octobre, du coup. Et j'avais réussi quand même, mine de rien, à glisser dans mon article le fait que c'était assez rare, en fait, de nos jours, d'avoir des friperies en plus situées juste à côté de la fac. Marketé vraiment pour les étudiants, pour les gens dans le besoin, pour les gens qui n'ont pas énormément de thunes à dépenser dans de la vaisselle, dans des vêtements, dans des CD, tout ça. Le fait de rendre justement la culture, parce qu'il y avait énormément de bouquins, de livres, de CD et de vinyles, de rendre tout ça accessible sans pour autant dire brûlons le grand capital, quoi. C'était surtout une façon de pas détourner, mais en tout cas un peu.
Je sais pas ce que tu en penses, mais moi quand j'y suis allée, je me suis dit tiens, le PMU et la FFU ont fait un enfant.
C'est exactement ça. C'est vraiment, ça se vend pas comme tel, mais c'est presque un tiers lieu en fait, justement de rencontres. Il y a deux trois petites tables pour se poser, pour prendre un café. Et justement, les dames qui tiennent ça, elles sont bénévoles en fait. Hein, c'est une association et elles prennent de ce qu'elles m'avaient dit. Elles prennent vraiment un grand plaisir justement à interagir avec les clients, à discuter et tout. Et le simple fait de mettre en lumière des tiers lieux comme ça, des espaces communautaires où tu peux rencontrer des gens, partager des points de vue, le tout sans dépenser des mille et des cents dans justement le nouveau café bobo hip où tu vas dépenser 50 euros pour un match à la thé. Je pense que c'est très important d'en parler, ne serait-ce qu'à une échelle locale, quoi.
Ouais, en soi, de la consommation de services, on rentre dans le tissage de lien.
C'est ça, exactement.
Nous, pour ce qui est des choix et du militantisme, c'est un sujet qui se pose quasiment à chaque numéro, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de dire avec quel sujet il va falloir prendre des pincettes, hein. On ne se le cache pas, c'est toujours... chaque mois est une problématique différente. J'estime cette année que... je ne sais pas comment se finance Banca, mais nous, on dépend, malgré le fait que tout se fait en association, tous les gens sont bénévoles, on a quand même des dépenses, rien qu'avec le format papier, au fait, en comptant le trombone, c'est quasiment... c'est plus de 2000 journaux imprimés par mois. On dépend des subventions de la fac et pour tout dire, on est de Rennes 1 et de Rennes Métropole aussi. Donc forcément, on ne peut pas se permettre de faire du militantisme absolu. Enfin, en tout cas, on essaie d'éviter pour pouvoir être sûr de pouvoir faire le prochain numéro. Mais moi, personnellement, je crois en l'audio militant, en fait, qu'en essayant de proposer des sujets accessibles à tous, on peut essayer de proposer des vidéos politiques plus en faveur du social, quoi. Pareil, hein, on n'est pas des professionnels, hein, on est un journal étudiant. Donc moi, j'invite vraiment à essayer de croiser les sources, à essayer de vraiment creuser les sujets et faire de la qualité au dépend de la quantité. Et voilà, essayer de proposer des sujets plus courts, mais bien construits, quoi.
Et est-ce que quand vous avez une problématique, voilà, de est-ce que je suis passé au bon endroit, est-ce que je suis trop dans le militantisme, est-ce que je suis pas assez dans le journalisme, est-ce que ça va se poser en inquiétude, en plutôt ça va être absolument que ce que je fasse ait du sens et un impact, enfin, c'est quoi un peu les inquiétudes qui vous traversent quand vous êtes face à cette tension-là entre journalisme et militantisme?
C'est des questions qui se posent, hein, ça c'est sûr, puisqu'on est en tant que journal collaboratif aussi, on doit travailler ensemble. Si tu publies un article dans notre journal, c'est sûr, tu aimerais bien que tous les autres articles soient pas en rupture avec ce que tu proposes. Hein. Donc on essaye d'organiser une sorte d'homogénéité générale, malgré la différence des profils. Mais du coup, c'est vraiment... Ouais, faire de la collaboration, en fait, je discutais, on a des étapes assez bien établies de se relier nous-mêmes dans l'association, en fait. Les gens proposent des articles et ils s'attendent à pas mal de modifications en fonction des retours qu'on leur fait, quoi. On essaie de donner un maximum de points de vue extérieurs, donc plusieurs personnes vont relire après. On va proposer des suggestions et vraiment c'est... les articles eux-mêmes, même s'il n'y a qu'une seule personne qui est créditée, c'est le fruit de l'ensemble du journal, en fait. Les gens sont passés derrière, il y a l'édition qui donne son avis aussi. On essaye que les sujets conviennent à tous et que les gens savent ce que contiendra le journal une fois qu'il paraît.
Aussi bancal. Je pensais qu'il y a quand même une ligne éditoriale qui est assez évidente justement par rapport aux sujets sociaux, ou au fait de pouvoir donner la parole aux personnes marginalisées. Et on avait du coup une journée. journaliste, vrai journaliste de métier, qui était venu nous aider avec la rédaction des articles et qui, pareil, nous a relus, sachant que, comme au sein de la Graphe, on se relisait tous un petit peu les uns les autres pour se donner des conseils en tant que personne extérieure, pour se dire justement, bah, là je comprends pas parce que je connais pas aussi bien le sujet que toi, tu pourrais peut-être un peu expliciter, etc. Je crois que nous, à ce moment-là, on n'a pas vraiment rencontré ce problème, cette tension, comme tu disais, entre militantisme et journalisme. Mais je pense que la question, elle se pose justement de manière plus large aussi à pourquoi tu veux écrire cet article, dans quelle optique tu le fais, en prenant aussi en compte forcément la structure qui t'héberge à ce moment-là, de te dire, c'est ce que tu disais, est-ce que j'ai vraiment... Pourquoi je le fais? Il faut que les gens sachent exactement ce que je suis en train de dire. Il faut mettre les gens au courant, il faut que les gens découvrent ça, etc. Par exemple, si tu es lanceur d'alerte, oui, c'est sûr qu'il va falloir, suivre sa ligne jusqu'au bout, peu importe les conséquences. Donc je pense qu'à une échelle plus locale et dans des médias indépendants et avec une ligne éditoriale qui est quand même assez militante comme Bancal et la Graphe, la question elle se pose un petit peu moins, mais à partir du moment effectivement où tu as une écriture journalistique, il va falloir se poser cette question de où est-ce que je peux mettre une limite justement dans ma liberté, ma propre liberté d'expression, comment je fais pour pas me faire virer si jamais tu fais partie d'une plus grande structure, quoi.
Et du coup il y a une question inverse qui me vient, c'est est-ce qu'à un moment donné vous avez pu avoir le ressenti, soit pour vous, soit pour autrui, de se dire là c'est pas assez engagé en fait, c'est trop lisse, ça
va
pas assez loin.
Pour ce qui est de Bancal, de mon ressenti personnel, je dirais que j'ai pas du tout eu cette impression-là au sein de la rédaction. Déjà parce qu'encore une fois, il y avait énormément de gens qui n'avaient pas encore écrit avant et qui justement se retrouvaient dans ce coup passionnés par un sujet, soit qu'ils avaient découvert et qu'ils voulaient faire partager au monde, soit qui leur trottait en tête depuis un moment. Après, justement, le fait de travailler, de faire mon stage non payé à ICRL pendant le mois de septembre, c'était, j'avais beaucoup plus cette impression-là, justement, où Sukawa, c'était un article vraiment super que j'ai adoré écrire, notamment parce que je suis parti à la rencontre des dames qui avaient fondé l'établissement et tout ça. Et il y a quand même eu, justement, des moments où c'était du reportage, c'était du local, et il n'y avait effectivement pas grand-chose de politique dedans, où c'était vraiment juste, bah voilà, il s'est passé ça, et d'ailleurs c'est super, parce que c'est la ville de Rennes, et on adore Rennes, et merci Nathalie Appéré d'avoir découvert la Vilaine, et quelle superbe initiative, parce que ça restait un journal de la métropole, quoi. J'espère qu'ils n'écoutent pas ça en ce moment, parce que j'aimerais quand même garder une bonne relation avec mes anciens collègues. Mais
tu t'es pas dans un quotidien où tu te retrouves à faire des choses qui sont peut-être moins denses en sens pour toi, quoi.
C'est exactement ça, et surtout encore une fois, comme c'est un journal public de la métropole de Rennes, souvent tu te retrouves même à devoir aller dans le sens de la politique rennaise. Oui, j'ai pris l'exemple du parking de la Vilaine qui est en train d'être détruit actuellement, où dans la ligne éditoriale qui avait été assénée dans la rédaction, c'était bah, c'est super, la mairesse a décidé qu'il fallait le faire, et du coup, nous, on va dire qu'en plus, c'est super écolo parce que ça va être tous les gravats, tous les déchets vont être acheminés par des barques jusqu'à une entreprise de recyclage, et l'écologie, c'est génial, tout ça. Et c'était pour le coup, même s'il y avait évidemment une certaine liberté de ton dans ce que tu pouvais dire, comme c'est un journal qui était quand même bah, le journal de la métropole. Il fallait quand même respecter justement les décisions métropolitaines, donc les décisions de la mairesse, les décisions de la ville, parfois les décisions de la police, etc. On avait eu à un moment une grande question sur fallait-il parler de la décision de hisser le drapeau palestinien sur la mairie pendant 24 heures. Et donc ça avait évidemment créé des vagues au sein de la rédaction, au sein des collègues, tout le monde y allait de son petit avis. Parce que forcément, tout le monde avait son avis là-dessus, et j'ai lu l'article qui a fini par être publié, et c'était très descriptif. Le drapeau palestinien a été hissé 24 heures.
Oui, c'était factuel, on peut moins savoir.
C'est ça, exactement.
Ouais, nous, de notre côté, la question se pose aussi souvent, Le risque de ce qui c'est, effectivement, c'est juste bah, de produire des articles consensuels. Mais moi, je crois en le fact-checking. Je crois qu'on peut, en apportant des vérités simples, on peut établir des vérités qui sont pas toujours évidentes dans le paysage politique actuel. Il y a eu des fois où j'ai pas mal retravaillé les articles qui étaient très axés pour donner un point de vue en particulier. Pour ne pas le nommer, il y a eu un article en septembre sur l'électrosensibilité. Étant moi-même assez pragmatique et sceptique de la zone assez expérimentale de ce genre de médecine, j'ai été pas mal amené à creuser le sujet pour essayer de le lisser, en effet, mais l'article était beaucoup moins pro, du coup, à la fin, tel qu'il est sorti, mais je pense personnellement que c'est en apportant des vérités simples, concrètement, ce que j'avais proposé à la rédactrice, c'était de reconnaître clairement quelle zone était, de reconnaître par exemple la souffrance réelle de ces personnes, mais d'un autre côté, parler du consensus médical qui est qu'on ne sait pas en fait. Donc c'est des problématiques qui reviennent quasiment chaque mois, comme je l'ai dit, mais effectivement, en apportant des chiffres et des points de vue, je pense que les vérités peuvent parler d'elles-mêmes. Il n'y a pas forcément besoin de faire preuve de militantisme pour faire apparaître des vérités évidentes et pouvoir plaider en faveur de telle ou telle cause.
Il nous reste une petite dizaine de minutes et je me tourne vers toi, Léa, parce que j'aimerais qu'on parle un peu de matérialisation des écrits. Qu'est-ce qui se passe quand on doit produire une revue en papier ? Déjà, c'est quoi les compétences que tu mobilises pour que ça advienne ?
Alors, on reçoit les textes ou les illustrations aussi, parce que du coup, je vais parler des deux. Je commençais par le texte, comme ça sera un peu plus structuré. Sous différents formats. Enfin, c'est vrai qu'on ne met pas de limite, du coup, on reçoit autant du PDF que du Word, que du Google Doc. Enfin, vraiment, c'est un peu le bazar. Donc, on essaie d'organiser tout ça dans des dossiers. Après, la charte graphique aide beaucoup. C'est vrai qu'on a nos polices, on a le nombre de caractères quand on voit qu'un texte est trop gros, ça va passer. Mais on essaie quand même parfois de s'arranger, d'essayer de mettre en boucle de page, etc. Pour essayer quand même. Enfin, c'est vrai qu'il y a des textes. Tous les textes sont intéressants à examiner, à publier. On les lit tous. De toute manière, on est 5 là, actuellement au Trombone. Donc tout le monde passe par la lecture attentive de tout ça. Et les illustrations, c'est un peu la même problématique, c'est-à-dire qu'on reçoit du dessin, enfin, ça passe souvent par du scan, donc il faut qu'il soit de bonne qualité. Mais on peut le proposer aussi à Rennes 2, c'est-à-dire qu'il y a des bons scanners, si la personne ne veut pas les scanner elle-même. Donc pour la matérialisation, pardon, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup en équipe, c'est-à-dire qu'on reçoit tous les contenus, donc via les appels à contribution, comme je disais tout à l'heure. On les stocke pendant plusieurs semaines au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et puis, petit à petit, on réfléchit ensemble à comment les agencer. Donc, il y a quelqu'un qui va voir ce contenu-là et un autre, il va se dire « Ah oui, c'est vrai que ça pourrait bien marcher ensemble. » On se laisse pas mal de liberté, on fait des petites réunions pour se dire « Ah oui, effectivement, ça pourrait s'élaborer comme ça. » Après, on fait le chemin de fer, donc c'est vraiment l'agencement des pages très concret. Donc, 24 pages comme la graphe quand on fait des trombones entiers, parce que c'est vrai qu'il y a des mois on a moins de contributions, il faut faire avec, ou plutôt sans. Du coup, c'est aussi trouver des compromis, dans quel ordre ça se fait, et comme je le disais tout à l'heure, la mise en place de thèmes, pour moi, je trouve que ça a clarifié aussi le processus d'agencement du trombone, parce que ça rend la lecture beaucoup plus claire, et ça fait sens, enfin, l'objet en lui-même fait sens beaucoup plus qu'avant. Avant c'était aussi très intéressant, mais voilà, ça
donne une ligne directrice en fait.
Exactement. Voilà.
Ouais. Notamment sur les thèmes, c'est un truc dont j'avais parlé avec Léa pendant qu'on parlait du trombone tout simplement. Je trouve que souvent restreindre le champ des possibles, ça pousse plus les gens à participer, mine de rien. Parce que si tu donnes un sujet, si le trombone c'est juste ouvert et genre apporter vos contributions, bon, les gens vont pas forcément se creuser la tête sur comment participer en fait. Hein. Alors qu'en proposant un thème, les gens vont se dire comment tourner ça et tout. Je pense que c'est, mine de rien, en limitant un peu plus les choix, ça peut aboutir à des travaux plus complets et plus homogènes. Quoi. Je trouve ça pas mal.
C'est plus marrant de se balader dans un labyrinthe que dans un champ. Quoi.
Bien formulé.
Et pour poursuivre un peu sur le côté matérialisation, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, tous les trois, ce côté d'avoir un média papier, ça produit des choses en termes d'espace de diffusion, de public, de consommation. Est-ce que vous voulez un peu développer ce volet-là ? En quoi pour vous, c'est quelque chose auquel vous êtes attaché, le média papier ?
Du coup, je me permets de poursuivre parce que c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui compte énormément au sein de l'asso. Donc, pour les bénévoles, à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent nous rejoindre pour dire qu'elles sont intéressées, on dit bien, bah oui, il faudra participer aux distributions. Du coup, alors, le journal, une fois qu'il est édité, on va faire un stand à l'université pour annoncer la parution. Donc, les gens viennent et prennent leur numéro, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, donc, soit dans la semaine, soit dans la semaine qui suit, on fait une distribution dans toute la ville de Rennes. Donc, ce qui renforce le côté local aussi, dont Titon parlait tout à l'heure, et qui a été mis en place en fait dès la création de l'Agraf aussi, quand nous, on n'était pas encore là. Donc, on va vraiment chercher des lieux. Que ce soit des bars, des lieux culturels comme le TMB ou autres, des friperies, des cafés, etc. Ou, je sais pas, des écoles aussi, donc la fac de droit, les beaux-arts maintenant. En fait, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous, et je sais qu'aussi quand il fait beau, cette année on va essayer de le refaire, d'organiser un stand Place Sainte-Anne directement et d'aller voir les gens et de leur proposer le numéro. C'est vrai que les gens au début sont un peu réticents parce qu'ils se disent « Ah oui, je dois payer combien ?» Maintenant c'est gratuit, ils ne croient presque pas. Mais au final, tout le monde est hyper content. Ou aller voir juste les gens dans les parcs, etc. En fait, aller directement voir les gens, ça c'est quelque chose qui marche beaucoup et qui est une sorte d'alternative aux grands médias, pas du tout indépendants, dont on parlait tout à l'heure. Ce contact-là, il est précieux pour nous, et les distributions, ça compte vraiment, et on insiste chaque mois pour qu'il y ait des personnes qui soient présentes, pour faire des petits groupes, et même ça renforce aussi le lien entre les bénévoles de l'asso, bien sûr. Donc voilà, par rapport à cette matérialité-là, c'est aussi pour se rendre dans tous ces lieux que c'est hyper important pour nous, et que jamais on lâchera ça.
Voilà, Léa a très bien résumé le contact social que je trouve vraiment giga important. Pas moi. Un, deux, oui. Ah. Dernier test. Bon. Croisez les doigts. Ouais, Léa parlait du lien social qu'on présentait à la distribution et vraiment recevoir de main en main le journal. Et dans la suite chronologique de la vie. Des journaux, je trouve ça bien que ça permet de garder trace, une trace physique des écrits, les articles, que ce soit les rédacteurs ou les gens concernés, ils les gardent, ils les distribuent à leur entourage, tout ça, je trouve que ça fait de très beaux objets derrière. Et aussi au trombone, on invite ouvertement à dépioter, découper les journaux pour pouvoir les afficher chez soi et en faire vraiment des outils de décoration et artistique.
Oui, par rapport à la beauté de l'objet, je vais me permettre de digresser un tout petit peu et de pas trop aborder bancal sur ce sujet-là, parce que du coup, moi, je vais bientôt sortir mon recueil de poésie au sein de la maison d'édition Les Bonnes Feuilles, donc anciennement poésie.io, sur Insta. Et moi qui écris depuis vraiment très très longtemps, c'est vraiment un truc. C'est peut-être un petit peu égocentrique dit comme ça, mais il y a vraiment une gratification en fait en tant qu'auteur de savoir qu'on va avoir son nom sur une couverture en carton avec un vrai livre dans une vraie maison d'édition. Certes une maison d'édition indépendante, mais justement il y a aussi une grande fierté qui vient avec ça, de se dire bon bah c'est pas Flammarion au moins quoi, qui est aussi détenu par Bolloré. Mais du coup, justement, il y a ce truc très. Très concret de se dire, bah justement, ça laisse une trace aussi, ça laisse une trace en tant qu'artiste, en tant qu'auteur. Ça fait beaucoup de bien, en fait, simplement, de se sentir validé dans sa production artistique
et de se dire ça a suffisamment plu à quelqu'un pour qu'il ait envie d'en imprimer 50, 100 exemplaires qui vont ensuite pouvoir être distribués premièrement en France, mais moi maintenant j'habite à Bruxelles, je sais que je vais aussi aller démarcher des librairies, des petites librairies souvent militantes, souvent indépendantes à Bruxelles qui pourraient être intéressées peut-être d'avoir 4 ou 5 exemplaires en vente, quoi. Et oui, par rapport à la pérennité de l'objet, en fait, simplement de se dire que ça va durer dans le temps, que des gens que je ne connais absolument pas, c'est un peu terrifiant aussi, mais se dire que justement des gens que je ne connais absolument pas vont pouvoir lire mes écrits, peut-être s'identifier, peut-être aimer, peut-être détester, mais en tout cas, il y aura une certaine réaction et ce sera diffusé, quoi. C'est le fait d'être connu aussi.
Je trouve ça pas du tout superficiel de distinguer le fait d'être lu et le fait d'être imprimé. C'est quand même pas du tout les mêmes enjeux et ça produit pas du tout les mêmes effets.
Ouais, petite parenthèse, ouais, que j'aime bien aussi, on parle souvent de gens, enfin, on m'a parlé quelques fois de gens qui emmenaient la graphe à l'étranger et qui les emmenaient. Je me dis, oui, c'est une bonne pensée de savoir qu'il y en a qui partent très loin et j'en ai aucune idée. Je ne sais pas quelle est la ligne d'arrivée des journaux et je trouve ça très bien comme ça.
Oui, mais c'est pareil, quand j'ai déménagé en Belgique, j'ai amené quelques exemplaires de bancal avec moi justement pour les distribuer un petit peu. Et le fait de se dire que bah, moi et tous les copains de la promo 2025, on est dans des maisons de bruxellois qui n'ont jamais entendu parler de nous, mais qui maintenant ont nos écrits chez eux, ça fait, c'est encore de la gratification, quoi. C'est de se dire on a franchi une frontière et on est distribué et on est lu, quoi. Et c'est vraiment super.
Il va être temps d'échanger quelques questions avec le public. D'ici à ce qu'il y ait un micro qui puisse s'y balader. Je ne sais pas s'il y a un bénévole ou une bénévole de la MJC qui pourrait prendre en charge ce... Ok, bon, on est seul avec nous, c'est très bien, on va se débrouiller. Mais pendant que vous réfléchissez à vos questions et qu'on trouve une solution pour que le micro vous parvienne, je crois que Christian et Léa, vous aviez un texte à nous lire de la graphe du trombone.
Eh ben, je vais commencer par lire un texte du trombone du coup qui est paru dans le dernier numéro. J'espère ne pas faire fourcher ma langue. Donc une minute avant le départ. C'est glauque un métro. Oh, qu'est-ce que c'est glauque, surtout s'il est long. Devant toi, le lambris ondule, défile des ombres secouées, des visages qui tirent la gueule derrière des miroirs flous. Le silence pèse, se main brisée par une toux. Par la voix mécanique, Dieu merci féminine, du microphone. Sainte-Anne, attention à la fermeture des portes. Drôle d'ambiance. Coincé de plein gré dans cette boîte qui grince en zigzag dans le colon urbain. C'est à cet instant que le ciel, le soleil, l'air reprennent toute leur importance. Attention à la marche en descendant du train. Là-dessous, on se détaille par malaise ou ennui. Le regard ici est plus lent, il prend son temps. On remarque les longs sourcils, les poches jaunes sous les yeux, le piercing mal centré. Rare et tant mieux, car quand on regarde vraiment, c'est terrifiant. Des poissons sans vie, des yeux tout gris. Et notre reflet, flou, sous ces lumières artificielles, nous donne sommeil. Le métal soupire, le train ralentit. Fini les ennuis. On franchit les mille portes sans se retourner. Et la vie reprend, tranquille, son mensonge de normalité. Et dis-toi, tu voulais lire un passage de la porte, peut-être ?
Bah, s'il y a déjà des questions, on peut passer à cette partie.
Je vais laisser la parole, mais... du coup, maintenant, j'ai une petite question, parce que c'est vrai que la graphe, c'est un journal qu'on connaît bien à Rennes 2. Et c'était plus pour ouvrir la question sur vous, c'est quoi la définition du mot « information » ? Je sais qu'elle peut être des fois propre à chacun, peut-être qu'elle a déjà été posée. Non ? Ok, bon, c'est bon, je ne me trompe pas. Mais ouais, c'est quoi votre définition d'information, du mot « information » hein ?
Bon, tu me fais des questions du bac de philo, là.
En même plus, attention, copie double et on reprend.
Bah, en vrai, il y a une démarche assez égoïste. Hein. Dans la graphe, on va pas se le cacher, on a envie d'écrire avant tout, quoi. Genre se tester à l'exercice d'écriture. Donc, dans l'information, il y a vraiment un côté de des choix, de sujets qu'on a envie de mettre en avant. Et enfin, qu'on a envie de rédiger nous-mêmes et qu'on a envie d'être lu à ce sujet-là, quoi. Donc moi j'ai un peu envie de développer là-dessus en disant que l'information qu'on a envie de diffuser, elle sera personnelle dans tous les cas, genre des sujets qui nous ont touchés, avec qui on n'a pas forcément de rapport, mais qu'on a quand même envie de sensibiliser. D'ailleurs, oui, c'est le mot que j'associerais assez évidemment à la graphe ou sensibilisée, hein. Les gens sont quand même assez engagés et ont envie quand même, de, en plus de s'essayer à l'écriture, de faire promouvoir des sujets ou sensibiliser les gens, ouais, à des thématiques qui leur sont chères. Hein.
Oui, bah, je te rejoins quand même pas mal là-dessus. Je dirais aussi la volonté de faire découvrir, en vrai. Quand c'est... Enfin voilà, que ce soit des sujets un peu cachés, un peu pas forcément abordés au quotidien, c'est justement la volonté de mettre en lumière peut-être quelque chose qui soit tient à cœur, soit que tu juges justement important de partager. Donc oui, quand même quelque chose un aspect un peu de révéler que ce soit voilà une information cachée ou en tout cas des paroles qui sont pas forcément relayées autrement. Donc ouais, vraiment la découverte et l'ouverture d'esprit, je dirais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos invités? Alors d'ici, est-ce que le public éventuellement ait une idée ou surpasse sa timidité, hein, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si vous avez des échéances, par exemple, tu nous parlais d'un été à venir, il y a des appels à texte, voilà, quels sont un petit peu les modus operandi pour soit retrouver vos productions, rejoindre un calendrier de formation en particulier, ou rejoindre une revue et un prochain numéro?
La graphe est composée à 90% d'échéances. On est très fan de dépôt, donc on est constamment sous pression pour pouvoir produire un numéro par mois. C'est aussi un exercice, hein, parce que mine de rien, quand on décide des sujets, il faut qu'ils soient encore valables un mois plus tard. Donc c'est un exercice à la fois assez rapide et avec beaucoup d'anticipation également. Ouais.
Là, plutôt la question, si je devais la reformuler, c'est qu'il y a du monde dans cette pièce, du monde qui nous écoute, qui peut-être se disent « Waouh, trop bien, je veux en être ». Comment on fait?
Pour la grâce, c'est simple, il suffit de venir. on a concrètement un groupe, un bureau à la fac, où on vous invitera très probablement à rejoindre un groupe WhatsApp sur lequel on met des réunions de rédaction tous les mois, et ensuite... ou alors rejoindre l'édition ou la communication, d'ailleurs en fonction de vos affinités avec le journal et vos études. On essaye de faire, en tout cas en complément avec les études, quand même la plupart du temps, même si ça peut avoir aucun rapport. Hein.
Et par exemple, vous faites partie du dispositif VE, qui permet du coup de valoriser le temps bénévole dans sa formation?
Oui, je crois qu'on est populaire auprès des VE. On en avait 16 en premier semestre et quasiment une trentaine là. Le deuxième, donc on a, mine de rien, c'est pas mal d'accompagnement chez des élèves, des étudiants, qui arrivent en première année pour une bonne partie de l'association. Ouais.
Donc si jamais vous êtes encore au lycée ou que les études c'est loin derrière vous, le dispositif VEE permet en fait aux étudiants d'avoir une note qui compte dans leur moyenne suite à leurs engagements bénévoles dans des associations.
Et pour la grâce comme pour le trombone, je dirais que vous pouvez nous rejoindre n'importe quand, c'est-à-dire qu'on est ouvert tout le temps et qu'on fait des permanences les mardis et mercredis midi. Autrement, pour le trombone et date limite, je dirais que l'appel à contribution se terminera à la mi-avril, on n'a pas fixé de date exacte, mais bon, si des contributions arrivent deux ou trois jours plus tard après la mi-avril, c'est pas
grave. On va redonner le thème.
Donc que deviendraient les feuilles sans les racines? Et voilà, si on veut s'engager, il n'y a pas de date limite par contre.
Et d'un point logistique, vous êtes toujours au bâtiment d'air?
Oui, le bureau il est situé en B302.
On a pris bonne note. Et toi, Isaac?
Pour Bancal, du coup, il y a une promo qui est actuellement en cours pour l'année 2026. Mais si jamais ça vous intéresse, justement, que vous avez des affinités avec l'audiovisuel, avec la rédaction, avec les médias, la communication, vous pouvez vous rapprocher du bureau de l'association Tout à Tout. Les inscriptions pour la prochaine promo devraient être ouvertes d'ici octobre 2026. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire partie peut-être de leur promo 2027, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Tout à Tout. Et pour le recueil, du coup, je suis en train d'attendre mon BAT, donc Bon à tirer, qui est un peu le prototype du bouquin. Et une fois que j'aurai tout confirmé avec l'éditrice, ça devrait sortir dans un mois ou deux peut-être.
Et si jamais ça vous intéresse, mon compte Insta, c'est @charmantclébard, où je commencerai à mettre... Oui, ce sera pour un permapromo quand, quand l'objet sera effectivement in the making, on va dire.
N'hésite pas à envoyer un petit service presse à Jerry Crachet sur vos ondes, parce que bon, les circuits courts, ça fonctionne aussi avec les médias.
J'en serais ravi, j'en prends note.
Oui, on n'a pas précisé pour la formation Chemin de Fer, mais on a beaucoup parlé de Bancal, mais il y a deux projets en fait qui sont menés tout au long de l'année. Il y a la revue écrite Bancal, mais il y a également un projet d'émission plutôt audiovisuel. Donc cette année qui s'est créée à New Future. On vous encourage à découvrir ça si vous ne connaissez pas encore. Je me tourne une dernière fois vers le public, c'est votre dernier instant pour briller, faire apporter une question pour aborder un sujet qu'on n'aurait pas encore traité, ou venir faire un retour, genre les complimenter parce qu'ils ont trop bien parlé sur scène, c'est un exercice facile. Voilà. Eh bien, il va être le temps de clôturer cette tente de table ronde du festival Écrire et lire. Il me semble que la directrice n'est pas loin pour adresser un petit mot. Voilà. Et le temps qu'elle arrive, je vais vous préciser que vous pouvez revenir à 18h30 et à 20h30. Et pour voir quoi ? Eh bien, ça, justement, c'est Claire qui va nous raconter.
C'est un peu bizarre.
Bonjour. Donc on continue ce festival avec un rendez-vous. Merci déjà, merci beaucoup. Je trouve qu'on vous a pas beaucoup applaudi en fait. Merci pour votre présence à tous et à toutes. À 18h30, on enchaîne avec un autour de la dramaturgie. C'est comme ça qu'on a intitulé cette scène. En fait, cette scène, elle sera composée de on vous propose des lectures de textes qui ont été travaillés à l'occasion d'un workshop qu'a proposé Lumière d'Août, qui a accompagné des autrices. Donc c'est des extraits de ces textes qui seront donnés à entendre. Voilà, on a proposé ça l'année dernière, c'était génial. En fait, après les échanges qui en sont suivis, étaient aussi très très riches. Donc on vous invite à y assister si vous le pouvez, vous le souhaitez. 20h45, Juliette Thomas nous livrera un texte inédit suite à des recueils de mots qui ont été effectué tout au long de ces quelques jours depuis mercredi, en gros, voilà, elle fera un retour de, voilà, une création d'un elle nous livrera ce texte donc qu'elle a écrit là, il n'y a pas si longtemps, là, c'est un petit moment performatif pour elle. Et 21h30, on accueille Lisette Lombé et Marc Nabour pour un spectacle qui s'intitule Ce que le ventre dit. Entre tout ça, on a le plaisir également de vous proposer des marges, comme on les a appelées, les marges du festival, avec l'association Leur Atelier qui sera présente. On a un bar à paillettes, on a évidemment la librairie, je dis tout en désordre, la librairie L'Astrolabe, qui est fidèle à nos rendez-vous et qui sera là également, et qui est là et qui sera là tout au long de la soirée. Et puis l'atelier Cocoroma, qui est là, qui propose des poèmes sous forme d'origami. Donc, bonne soirée. Merci à vous. À bientôt.
Et avant de rendre l'antenne, parce que vraiment, on est sur de l'ubiquité aujourd'hui, on est à la fois ici maintenant au Grand Cordel, mais on est aussi là-bas sur les ondes de Radio Syllabe. Si vous voulez rencontrer la Radio Syllabe et d'autres médias indépendants, il y a le Festival des médias indés qui se tiendra les 11 et 12 avril au Théâtre de la Paillette, en centre-ville. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés et très bonne journée, que vous soyez chez vous, derrière votre poste radio ou dans cette salle.
Je me permets de préciser à la dernière seconde que la grappe sera également présente au Festival des médias indés.
Double raison de dire.